Bonjour à tous et à toutes. Nous avons un sujet intéressant devant nous, Israël en Égypte, mythe ou réalité. Il faut savoir, aujourd'hui, la Bible est bien contestée et il y a beaucoup de scientifiques qui mettent en doute, par exemple, l'histoire d'Israël en Égypte, la sortie d'Égypte, la conquête du pays de Canaan sous Josué, etc. Mais avant de répondre à la question « Israël en Égypte, mythe ou réalité ?», j'aimerais juste présenter ce que dit la Bible. Si nous commençons en Genèse 11, nous pouvons lire l'histoire d'Abraham, qui autrefois s'est appelé Abraham, décrit comme l'ancêtre du pays, du peuple d'Israël. Voilà, Genèse 11, 26 nous montre comment, selon la Bible, Israël était choisi comme le peuple de Dieu pour être une bénédiction pour le monde entier à travers le Messie. Et je lis l'appel d'Abraham en Genèse 12, verset 1er. Et l'Éternel avait dit à Abraham, « Va-t'en de ton pays et de ta parenté et de la maison de ton père dans le pays que je te montrerai. Et je te ferai devenir une grande nation et je te bénirai et je rendrai ton nom grand et tu seras une bénédiction. Et je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et en toi seront bénies toutes les familles ou tribus, Mishpacha, on peut traduire par tribu, de la terre. Et voilà, ensuite nous lisons au verset 6, comme Abraham qui est sorti de la ville d'Ur, au sud de l'Irak actuel, pour aller au pays de la promesse. Nous lisons comme il entre dans le pays de la promesse. Genèse 12, verset 6, « Et Abraham passa au travers du pays jusqu'au lieu de Sichem, jusqu'aux chênes du Moré. Et le Cananéen était alors dans le pays. Et l'Éternel apparut à Abraham et dit, « Je donnerai ce pays à ta semence. » Et il bâtit là un autel à l'Éternel qui lui était apparu. » Voyez, Abraham entre au pays de la promesse et reçoit là la promesse de Dieu que ses descendants, donc le peuple d'Israël, va recevoir un jour ce pays de Canaan, qui plus tard est devenu le pays d'Israël. Voyez là les ruines de la ville de Sichem, de l'Ancien Testament, à l'intérieur de la ville moderne de Nablus. Eh bien, la Bible nous décrit dans les chapitres qui suivent, Genèse 12 à 50, comme Abraham a reçu finalement un fils, Isaac. Isaac a reçu deux fils, mais Jacob était choisi pour être l'héritier, donc l'ancêtre du peuple d'Israël. Lui, à son tour, avait deux fils qui sont devenus les patriarches des 12 tribus d'Israël. Mais là, une histoire qui touche les cœurs des enfants et des adultes. Joseph doit devenir l'héritier. C'est pour ça qu'il avait reçu une tunique spéciale de son père, une tunique bigarrée. Et là, nous lisons de 10 frères qui détestent Joseph et le vendent finalement comme esclave en Égypte. Mais là, finalement, comme vous pouvez lire en Genèse 37 à 50, Joseph devient gouverneur d'Égypte, le numéro 2, juste après le pharaon. La Bible décrit en détail une famine terrible en Canaan. Les frères de Joseph achètent de la nourriture en Égypte. Et voilà, d'abord, sans connaître leur frère Joseph qui les rencontre. Mais finalement, Joseph se fait connaître après des événements dramatiques décrits d'une façon détaillée dans la Bible. Et voilà, la grande famille déménage dans le delta occidental du Nil, au pays de Goshen. Et voilà, la grande famille finalement devient un peuple en Égypte. Plus tard, la Bible nous dit, lisez Exode 1 à 12, un autre pharaon réduit le peuple d'Israël en esclavage. C'est l'époque de la naissance de Moïse. Et voilà l'époque finalement des 10 plaies qui tombent sur l'empire égyptien pour le détruire. Et cela donne à Israël la liberté pour sortir. Voilà l'exode vers la liberté. Ensuite, si on lit Exode 12 à 40, le livre du Lévitique intégralement, également le livre des Nombres et de Deutéronome, alors vous pouvez lire comme pendant 40 ans, Israël marche dans le désert pour aller finalement au pays de la promesse. Tout à la fin, Moïse meurt en Moab. Et la suite, c'est le livre de Josué, 1 à 24, où nous avons la description biblique de la conquête du pays sous Josué. Des villes comme Jéricho, Hatzor, Sichem, Shiloh, Dan, etc. sont conquises par Israël. Voilà ce que la Bible, en quelques mots, dit dans tous ces passages. Et aujourd'hui, il faut se confronter à une critique fondamentale de la Bible. Donc, des personnes comme, vous voyez ici, Israël Finkelstein. Finkelstein et autres, ils mettent tout en question. Ils disent, la Bible, c'est un livre de mythes. Et on ne peut pas se baser historiquement sur la Bible. Il a écrit avec Silberman un livre, « Pas de trompette devant Jéricho ». Vous voyez ce que ça veut dire. Donc, toute l'histoire de la conquête sous Josué, c'est inventé, ce n'est pas un fait historique. Et alors il dit, Abraham, Isaac, Jacob, Joseph, gouverneur en Égypte, Israël en Égypte, l'Exode et la conquête du pays, ce sont des légendes. Il insiste, et pour cela il est souvent cité par les mass médias. Il n'y a aucune trace archéologique d'Israël en Égypte. Mais il faut savoir que les mass médias aiment citer des personnes qui sont contre la Bible. On pourrait aussi citer des grands archéologues aujourd'hui qui ont une autre position, voyez. Mais Israël Finkelstein est très aimé et il dit « Il n'y a aucune trace archéologique d'Israël en Égypte ». En plus, vers 1230 avant Jésus-Christ, Jéricho n'était pas une ville. Il n'y avait pas de mur. Donc, aucune possibilité pour un mur de tomber vers l'extérieur. Alors, aussi inutile de vouloir chanter avec les enfants, « Those of the Battle of Jericho, and the wall came tumbling down. » Il n'y avait pas de mur qui pouvait tomber. La conquête du pays sous Josué est une pure légende. Alors, on peut se demander, qu'est-ce que ça change si ce n'est pas historique? En tout cas, ce sont des belles histoires qu'on peut raconter aux enfants, simplement comme ça. Mais il faut bien savoir, les premiers livres de la Bible, donc les 5 livres de Moïse, ensuite le livre de Josué, forment la base de la bonne nouvelle du Nouveau Testament. Pour la crédibilité de la bonne nouvelle, il est très important que la fondation soit solide. Donc, il s'agit ici vraiment de la base de la bonne nouvelle, de l'Évangile qui est mis en question. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire vis-à-vis de telles critiques? Donc une critique qui remet en question les fondements de la Bible. D'abord, il faut voir les faits et distinguer les faits et les interprétations. Voilà. Ici, vous voyez Ramsès II, selon la chronologie des égyptologues aujourd'hui. Il a régné de 1279 jusqu'à 1213 avant Jésus-Christ. Et c'est un fait. À l'époque de Ramsès II, il n'y avait effectivement aucune trace des Israélites en Égypte. C'est un fait. Jéricho, à cette époque-là, n'était pas une ville, n'avait pas un mur autour. Jéricho est tombé vers 1550 environ, avant Jésus-Christ, et ensuite, pendant des siècles, elle ne fut plus une ville. Ce sont des faits qu'on ne peut pas contester. Mais là, il y avait plusieurs personnes qui ont recherché une solution à ce problème. Et ici, vous voyez Immanuel Velikovsky, 1895 jusqu'à 1979. Lui était un psychanalyste, très intelligent, juif d'origine, et il s'intéressait à toutes sortes de sujets. Donc il a écrit aussi beaucoup de livres qui n'ont pas de relation avec la psychologie, comme le livre très connu « Ages in Chaos », « Les périodes, les âges en chaos »,« Peoples of the Sea », « Ramsès II and His Time ». Et là, il a recherché une solution entre le problème de l'archéologie et de la Bible. Il a essayé de changer complètement la chronologie des égyptologues. Il a dit, donc là, il y a un chaos dans la chronologie. Et si on change là la chronologie, on peut voir des parallèles entre les faits qu'on a trouvés en archéologie et la Bible. Donc il a écrit des choses très intéressantes parce que, comme je viens de dire, il était excessivement intelligent. Il pouvait très vite combiner aussi des choses dans domaines qu'il n'avait pas étudiés autrefois, mais si on a fait une fois des études, on entre facilement dans d'autres domaines. Mais je dois dire, il a été rejeté complètement. Donc ses crédits académiques, il a perdu dans le monde entier. Pauvre Velikovsky. Il est d'ailleurs marié avec une violoniste connue. Oui, mais ça n'aide rien. Donc, une autre personne, le professeur Dr. Donovan Amos Curwill, 1895 jusqu'à 1979, lui était biochimiste. Alors, vous ne voyez pas un psychanalyste. Ça va déjà mieux, n'est-ce pas? Pour les égyptologues, n'est-ce pas? Ils n'étaient pas du tout prêts d'accepter donc une révolution dans leur domaine faite par un psychanalyste. Mais là, c'est un spécialiste en sciences naturelles, un biochimiste, qui avait en plus, un intérêt profond pour l'archéologie et la chronologie biblique. Et lui aussi a essayé de changer la chronologie obtenue par les égyptologues modernes pour voir des parallèles entre la Bible et l'archéologie. Mais je dois vous dire, on n'a pas bien reçu en égyptologie un homme de la science naturelle qui veut prescrire aux égyptologues ce qu'il faut croire et penser. Alors ça n'a ça n'a pas bien fini non plus. Mais plus tard, le docteur David Rawl, né en 1951, lui a fait des études d'égyptologie. Et lui a fondamentalement également attaqué la chronologie moderne dans l'égyptologie. Alors vous voyez, ce n'était pas un psychanalyste, ce n'était pas un biochimiste, mais un égyptologue. Et d'ailleurs, un peu de type rebelle. Parce qu'il il a commencé à faire ses études lorsqu'il avait déjà un certain âge, donc il a étudié avec des étudiants qui étaient beaucoup moins âgés que lui. Et lui, il n'était pas très agréable dans les cours, donc il posait tout le temps des questions un peu rebelles au professeur. Vous voyez, c'est pas très apprécié normalement. Et voilà, finalement, il a fait son doctorat et il a écrit ce livre qui est aussi traduit en allemand, Pharaonen und Propheten. Et en anglais, le titre originel, c'est A Test of Time, un test de la chronologie. Et en quelques mots, on peut dire, il a déclaré la chronologie égyptienne est erronée et doit être décalée de 380 ans. Alors, tout s'accorde avec la Bible. Intéressant. Il faut simplement changer la chronologie et ça s'accorde avec la Bible. Mais je dois vous dire, ce n'était pas accepté. Pauvre David Rawl, il a été fortement attaqué publiquement. Et vous voyez, la littérature scientifique en égyptologie, c'est pas très, très attractif, n'est-ce pas? C'est plutôt de la poussière qui sort lorsqu'on ouvre les livres et on met, ce qui est normal en science, pas d'émotion dans les textes. Mais là, vous pouvez voir dans des publications scientifiques où on a traité le livre de David Rawl, c'était complètement différent. Donc, des émotions qui montaient d'une façon terrible et il était vraiment attaqué d'une façon pas très aimable. Et pour dire finalement, David Rawl, c'est rien du tout, inacceptable. Vous voyez, la chronologie égyptienne n'est pas considérée comme étant une chronologie vraiment absolue. Alors si vous essayez de changer peut-être 50 ans, ça peut être accepté. Ça c'est absolument dans les possibles. Si vous montez encore, disons vers 80, ça devient très très difficile, mais c'est toujours dans la mesure du possible. Mais de vouloir changer 380 ans, impossible, absolument inacceptable. Maintenant, je vous présente un autre homme intéressant, Tim Mahoney. Il est né en 1957. Et voilà, ce n'est pas un psychanalyste, ce n'est pas un biochimiste, ce n'est pas un égyptologue, c'est un producteur de films américain. Et lui a passé par une crise de foi lorsqu'il a rencontré ces faits qu'on a des grands problèmes entre Bible et archéologie. Quand il s'agit de l'histoire d'Israël en Égypte, pas de traces. Conquête sous Josué, pas de traces archéologiques. Et ça l'a mis dans une profonde crise de foi. Mais il s'est dit, je vais affronter ce problème. Il a commencé à voyager et à visiter des spécialistes d'un lieu à l'autre et faire des interviews pour un futur film. Et là, il a investi des années et rassemblé le matériel, ce qui a finalement donné cette documentation Pattern of Evidence. C'est un film qui était bien reçu dans beaucoup de cinéma officiel en Allemagne, par exemple, et ensuite l'intérêt a grandi pour les autres pays. Et voilà, ce film est effectivement devenu très connu. Vous voyez là la DVD que vous pouvez obtenir. C'est fait avec une qualité remarquable et il montre sur la base de David Rohl. Il faut simplement changer la chronologie et ensuite vous voyez Joseph en Égypte, les esclaves d'Israël en Égypte, les traces de la sortie d'Égypte, les murs qui sont tombés à Jéricho vers l'extérieur, etc., etc. Donc c'est fantastique. Simplement, vous voyez, ceux qui ne sont pas des spécialistes en égyptologie, ils sont beaucoup plus ouverts à accepter donc, un changement de la chronologie et ils sont souvent très impressionnés par les faits qu'ils montrent d'une façon cinématique, mais vraiment d'un niveau élevé. D'ailleurs, j'ai rencontré Tim Mahoney aux États-Unis et on a fait des interviews, donc des films pour un futur film qu'il prévoit. Et il y a quelque temps, je l'ai rencontré encore une fois en Allemagne, dans le musée de Gutenberg. Et là, on a encore une fois fait des scènes pour ce film futur qui va traiter la question « Qui a écrit le Pentateuque ?» les 5 livres de Moïse. Eh bien, qu'est-ce qu'il faut penser de la critique de la Bible et d'autre part de ces essais de solutions ? Eh bien, d'abord, il faut avoir une critique de la critique. C'est important. Pas simplement recevoir ce que des hommes comme Israël Finkelstein prétendent. Il faut être critique et demander dans tout cela, est-ce qu'il faut vraiment une révision de la chronologie ? D'abord, première observation, la Bible ne désigne nulle part Ramsès II comme le pharaon de l'esclavage. Donc ces dates qu'on avance tout le temps, 1230 avant Jésus-Christ, la date de l'Exode, pas de traces en Égypte, pas de traces en Canaan, eh bien il faut mettre en question, est-ce que c'est vraiment ça qu'il faut considérer ? En plus, cette date est en contradiction avec la chronologie biblique. Je suis en train d'écrire un nouveau livre sur la chronologie biblique, où j'ai montré qu'il est possible de réunir, par la mathématique, tous les chiffres de la Bible dans un système fermé, où on peut donc mettre ensemble ces chiffres sans paradoxe, sans difficulté. Mais pourquoi autrefois on n'est pas arrivé à cette solution ? Parce que on a tout le temps, lorsqu'il y avait quelques difficultés, on s'est dit oui, mais c'est peut-être une erreur de copiste. Et on a mis de côté plusieurs chiffres qu'on trouve dans la parole de Dieu. Mais j'ai montré qu'on peut vaincre toutes ces difficultés et réunir tous les chiffres. Et par cela, on atteint donc une date de l'Exode beaucoup plus vers le passé. Je vais montrer cela dans la suite. Mais tout d'abord, j'aimerais répondre pourquoi on a tout le temps dit le pharaon de l'Exode était Ramsès II. Ça se base sur un texte biblique. Exode 1, verset 8. Et un nouveau roi se leva sur l'Égypte, qui n'avait point connu Joseph. Et il dit à son peuple, « Voici le peuple des fils d'Israël, est plus nombreux et plus fort que nous. » Verset 11. Et ils établirent sur lui des chefs de corvée pour l'opprimer par les fardeaux. Et ils bâtirent pour le pharaon des villes à greniers, Pithom et Ramsès. Donc la Bible nous dit que le peuple d'Israël a bâti comme esclaves deux villes, Pithom et Ramsès. Alors, on se dit, vous voyez le terme « ville de Ramsès ». Donc, on peut en déduire que Ramsès II était le pharaon de l'esclavage. Bien sûr, il y avait 11 pharaons du nom Ramsès, mais on a choisi Ramsès II. Et cela pour des bonnes raisons, parce que Ramsès jouait effectivement dans l'histoire un grand rôle avec la ville de Ramsès. Et c'était un grand bâtisseur. Mais de déduire du nom d'une ville, le pharaon, ça c'est problématique. Et effectivement, parce que la chronologie biblique dit autre chose. Et il y a des autres possibilités pour expliquer le nom de la ville, Ramsès, dans la Bible. Parce que autrefois, cet endroit était appelé Avaris. Donc un nom qui plus tard n'était plus connu. Et alors on peut comprendre qu'un prophète, après Moïse, a mis le mot Ramsès pour actualiser pour le peuple d'Israël. Donc toujours à l'époque où il y avait des prophètes, sous l'inspiration du Saint-Esprit, a mis le mot Ramsès pour actualiser le terme géographique, pour le rendre intelligible pour les lecteurs de la Bible hébraïque. Alors vous voyez, par ce lien, ville de Ramsès, donc Ramsès II, on a dit, voilà, l'Exode hors d'Égypte a eu lieu vers 1230 avant Jésus-Christ. Mais si vous prenez les chiffres des années de la Bible, qui d'ailleurs donne un système chronologique depuis le début de la Bible, de l'Ancien Testament, jusqu'à la fin de l'Ancien Testament. Et il y a même encore un pont de chronologie vers le Nouveau Testament, et on peut établir donc une chronologie jusqu'à la destruction de Jérusalem à l'an 70 après Jésus-Christ. Et il y a pas de trou, il n'y a pas des lacunes dans cette chronologie. C'est donc déjà un phénomène unique dans la littérature de l'Antiquité. Eh bien, avec les chiffres de la Bible, on atteint 1606 avant Jésus-Christ comme l'année de l'Exode. 40 ans plus tard, après les 40 ans dans le désert, 1566 avant Jésus-Christ, la conquête de Jéricho. Et je vais vous expliquer quelques détails de la stricte chronologie. Et pour ça, il faut donc un synchronisme entre archéologie et Bible. Et pour cela, il faut s'attaquer à l'an 586 avant Jésus-Christ. C'est l'an de la destruction de Jérusalem par Nebuchadnezzar. Je lis 2 Rois 25, verset 8. Et en cinquième mois, le septième jour du mois, c'était la 19e année du roi Nebuchadnezzar, roi de Babylone. Nebuzaradan, chef des gardes, serviteur du roi de Babylone, vint à Jérusalem. Et dans la suite, voilà la destruction de Jérusalem et du temple de Salomon. Eh bien, on a bien des tablettes cunéiformes, authentiques de la vie de Nebuchadnezzar, qui font des descriptions de positions de planètes, etc. Et sur cette base, on a donc un grand nombre de possibilités pour calculer la chronologie de la vie de Nebuchadnezzar. Et quand on calcule la 19e année du roi Nebuchadnezzar, on obtient 586 avant Jésus-Christ pour la destruction de Jérusalem. Donc là, c'est une date qui n'est pas contestée par ceux qui font la recherche biblique et ceux qui font la recherche archéologique. Ce synchronisme, c'est quelque chose qui unit tous. Eh bien, sur la base de cette date, nous pouvons calculer en arrière. Et vous voyez, je prends juste quelques chiffres de la chronologie qui sont fondamentales, du grand nombre de chiffres chronologiques de la Bible. Vous voyez, la division du royaume d'Israël en 10 et 2 tribus, juste après la mort du roi Salomon, a eu lieu 390 ans avant la destruction de Jérusalem. Et si vous calculez les années en 1 et 2 chroniques, 1 et 2 rois, vous obtenez 390 années. Exactement. Et c'est exactement le chiffre qui est mentionné en Ézéchiel 4:4. Et voilà, le texte parle de ces 390 années. C'est la période depuis la division du royaume jusqu'à la destruction de Jérusalem. Mais en plus, avant cette division, il y avait la monarchie sur les 12 tribus. D'abord Saül, ensuite le roi David, ensuite Salomon. Et la Bible nous dit, Saül était roi pendant 40 ans, acte 13, 21. David était roi pendant 40 ans, 2 rois 2, verset 11. Et également Salomon, 2 chroniques 9, verset 30, 40 ans. Donc, 3 fois 40 ans, ça nous amène vers 1096 avant Jésus-Christ, le début de la monarchie sur les 12 tribus. Ensuite, on continue à travailler en arrière. La Bible nous dit, avant la monarchie, il y avait le temps des juges. Et là, si vous voyez acte 13, 18 à 20, l'apôtre Paul, dans sa prédication dans une synagogue, explique que Dieu avait donné pendant 450 ans des juges. Et si vous comptez les chiffres qui sont indiqués dans la Bible, vous recevez exactement 450 ans. Et en plus, on peut calculer qu'après les 40 ans de voyage à travers le désert, après l'Égypte, la période de la conquête sous Josué était une période de 6 ans, exactement. Et on peut aussi calculer, à travers les chiffres donnés dans la parole, je vais montrer tout ça dans ce futur livre, dans le détail, comment on peut obtenir encore ces 14 ans. Depuis la fin de la conquête du pays jusqu'au début du temps des juges, jusqu'à la première fois où un roi étranger a régné sur Israël, juste avant le premier juge. Et ensuite, les 450 ans. Et ainsi, vous voyez, on ajoute 14, 6, 40, on atteint 1606 avant Jésus-Christ. Et c'est quand même surprenant, c'est autre chose, 1606 comparé à 1230 avant Jésus-Christ. Et si vous calculez, ça fait une différence de 376 ans. C'est quand même étonnant. David Rohl voulait changer la chronologie égyptienne de 380 ans. Mais c'est inacceptable pour le monde scientifique. Impossible. Mais j'ai posé la question. Est-ce qu'il faut une révision de la chronologie? Laissons ce qu'on a établi en égyptologie et voyons ce que la Bible enseigne sur la chronologie. Et pas besoin. Donc vous pouvez voir le film de Tim Mahoney, c'est un film fantastique, mais chaque fois lorsqu'il dit « maintenant on change la chronologie, il faut passer dessus » et vous aurez à la fin le même résultat, mais sans mettre en colère le monde scientifique. Voyez. Alors, Ramsès II était un membre de la 13e dynastie en Égypte, mais 1606, c'est la... Ramsès II était un membre de la 19e dynastie égyptienne, mais si on retourne vers 1606, nous sommes vers la 13e dynastie. Ça, c'est vraiment autre chose, vous voyez. Et maintenant, nous faisons une approche tout à fait différente. Manéthon, c'était un historien égyptien de l'époque ptolémaïque, donc dans les siècles juste avant l'ère chrétienne. Et lui a transmis ceci. Dieu fut impitoyable à l'égard du roi Timaios et frappa l'Égypte. Ensuite, des ennemis venant de l'Est ont conquis le pays facilement et sans épée. La conséquence, des villes réduites en cendres, dévastation des sanctuaires des dieux, massacre de la population et esclavage. Tiens, il faut savoir, à l'époque ptolémaïque, en Égypte, la langue courante était le grec. C'est la conséquence de la conquête d'Alexandre le Grand, qui a imposé le grec comme la langue courante, comme l'anglais aujourd'hui, le grec. Donc, il a écrit en grec, et le nom de ce roi, Timaios, c'est donc la manière de prononcer un nom égyptien avec les lèvres grecques. Donc, il faut trouver l'original égyptien de Timaios, et Timaios correspond en égyptien à Dedumose. Dedumose. Et voilà. Si on voit le papyrus royal de Turin, c'est un très ancien papyrus qui donne une liste de pharaons. Et là, on trouve, il y avait 12 rois, chacun ayant régné environ 5 ans, après Kha-Nefer-Re. Et voilà, c'était Dedumose. Et lui était pharaon à la fin de la 13e dynastie. Tiens, ça c'est quand même intéressant. C'est un chemin absolument indépendant. Vous voyez, parce que Manéthon, c'était pas un juif, c'était un égyptien. Il n'était pas lié avec la Bible et la tradition biblique, mais il nous transmet donc cette histoire d'une catastrophe tombée sur l'Égypte, et ça nous amène vers la 13e dynastie. Et ainsi, on peut s'occuper maintenant de la naissance de Moïse. Moïse a vécu, selon le texte biblique, a commencé à vivre, donc est né, 80 ans avant l'Exode. Donc on peut calculer, 1686 avant Jésus-Christ, la naissance de Moïse. Et là, vous voyez Ha-Neferé. Et on fait donc le calcul en arrière. Et il faut savoir, Artapanus, un historien juif de la fin du XIIIe siècle avant Jésus-Christ, lui était auteur d'un ouvrage sur l'histoire du peuple juif, avec le titre grec « Peri Judaion » sur les Juifs. Il dit « La fille du Pharaon, à l'époque de Moïse, s'appelait Méris, et son mari était le Pharaon Khénéphrès. » Khénéphrès, c'est aussi, vous voyez, la prononciation grecque, et il faut trouver l'original égyptien. D'ailleurs, juste une petite indication, en grec ancien, on ressentait un S à la fin d'un nom comme un signe de masculinité. Par exemple, le nom Jésus. En hébreu, c'est Yeshua. Alors, en grec, ça fait Yesu, mais vous voyez, on n'a pas de lettre pour décrire sh en grec. Donc il faut, au lieu de sh, il faut écrire s. C'est pour ça, pas Yeshu, mais Yesu. Et puisque c'est un nom d'un homme, il faut mettre le signe masculin, s, Yesus. Voyez, Esaïe. En hébreu, c'est Yeshayahu ou Yeshaya, la forme courte. Yeshaya, ça a donné en grec Yesaya, avec un S à la fin, Yesayas. Jérémie, Yirmeyahu ou la forme courte, Yirmeya, ça a donné Yérémia, avec un S, Yérémias. Voyez, c'est pour ça, en allemand, on suit beaucoup plus les noms dans l'original. C'est pour ça que c'est très normal de dire en allemand Jérémias, Yesayas ou Moses au lieu de Mosé, le signe de nom à la fin, Moses. Alors, vous voyez ici, Khénéphrès, mais ça correspond à Ha-Neferé en égyptien, ce qui veut dire la perfection de Ré, le dieu du soleil, brille à l'horizon. Et ce pharaon avait aussi le nom Sobekhotep IV, c'était le nom d'intronisation. Et lui était le 23e pharaon de la 13e dynastie. Et maintenant, nous essayons de trouver le pharaon à l'époque de Joseph. Maintenant, nous connaissons le pharaon à l'époque de l'Exode, le pharaon à l'époque de la naissance de Moïse, qui est devenu père de Moïse, n'est-ce pas? Et maintenant, le pharaon à l'époque de Joseph. Eh bien, Joseph, devant le pharaon, selon la stricte chronologie, c'était à l'an 1830 avant Jésus-Christ. Et cela est, selon la chronologie officielle, même là vous pouvez voir quelques différences selon les livres dans la littérature, mais je vous assure, c'est toujours très peu, n'est-ce pas, parce que c'est impossible de changer la chronologie par des siècles. Mais comme ça, vous obtenez l'époque d'Amenemès III. Voilà, on sait même exactement comment son visage était à l'époque. D'ailleurs, c'est une statue hors du normal. Normalement, les pharaons sont plutôt représentés dans l'art égyptien d'une façon symbolique, des visages symboliques. Mais là, c'est un visage très réaliste et qui montre un pharaon avec les oreilles mises vers le peuple, qui écoute la voix du peuple et qui envoie un souci profond sur le visage du pharaon. Dans la science de l'art égyptienne, on a discuté cette statue sans faire donc le lien avec Joseph, comme nous allons le faire maintenant, tout en disant il semble que ce pharaon avait donc un souci particulier pour son peuple. Eh bien, tout d'abord, nous allons voir un peu les fouilles dans la ville de Ramsès. Pour cela, il faut aller en Égypte et particulièrement à Tel Eddaba, ce qui veut dire colline aux hyènes. Et là, sous cette colline, on a trouvé la ville de Ramsès. Depuis les années 60, une équipe autrichienne fait des fouilles près de Kantir, où l'on a retrouvé la ville de Ramsès. En égyptien, on dit Pi Ramsès. Pi, c'est l'article défini en égyptien. Pi Ramsès. Et l'homme qui a un grand mérite dans ce travail, c'est le professeur Dr Manfred Bittak, né en 1940. Donc lui, pendant des années, il a travaillé là à la ville de Ramsès. Et d'ailleurs, c'est lui qui m'a personnellement donné le droit d'utiliser ces photos de ces fouilles pour des conférences et même là pour les films. Il faut d'abord un peu expliquer ce que c'est qu'un tel. Le mot tel en arabe désigne une colline. D'ailleurs aussi en hébreu, on dit tel. Une colline, mais pas une colline naturelle. Il s'agit donc d'une colline des ruines de la civilisation du passé. Et c'est pour ça, lorsqu'on commence à toucher un tel, il faut bien regarder, observer les différentes couches. Parce que il est absolument clair, le plus nous sommes en bas, le plus vieille sont les choses qu'on y trouve. Donc, c'est toujours selon la chronologie. Et c'est pour ça, lorsqu'on fait des fouilles, on constate par exemple une certaine mode des vases et des vaisselles, et dans une autre couche, une toute différente mode. Donc, les gens étaient comme nous aussi autrefois. Et sur la base des modes qui ont changé, des vaisselles, on peut établir une chronologie relative, voyez. En fait, on pourrait faire ça aussi aujourd'hui, parce que lorsque nous sommes mariés, Myriam et moi, nous avons reçu donc les ustensiles pour faire de la fondue. Et vous voyez, un jour, on a invité un couple à manger la fondue avec nous, et finalement ils disent, mais nous avons exactement la même chose pour y mettre la fondue. Alors on se demande, mais quand est-ce que vous êtes mariés? C'est de la même année. Vous voyez, la mode change et on peut déduire selon les modes de la fondue la date du mariage. Alors, c'est à peu près ça, ce qu'on fait en archéologie. Mais vous voyez, par exemple, on trouve dans la troisième couche ici une certaine mode pour faire des vases et des assiettes, etc. Donc, dans un autre endroit, on trouve dans la sixième couche la même mode. Alors, on peut en déduire, la troisième couche ici représente la même époque comme la sixième couche là-bas. Donc, une nouvelle couche vient après une destruction. Et voyez, pas tous les endroits étaient détruits dans l'histoire à la même époque. C'est pour ça, vous ne pouvez pas dire la troisième couche, c'est la même chose comme la troisième couche là-bas. Non, il faut voir donc les modes. Alors, les fouilles dans la ville de Ramsès, on a trouvé la plus ancienne couche, on appelle stratum H. Ensuite, stratum G, G4, G3, G2, G1. Ensuite, il y a une rupture. Cette ville a été délaissée, les habitants sont partis, d'ailleurs en fuite, on peut le voir, par les traces, et après quelques temps seulement, voilà les restes d'une autre couche, stratum F, où un nouveau peuple est venu habiter là. Donc, voilà déjà une photo du film de Tim Mahoney, qui m'a aussi donné donc, les droits d'utiliser ces photos publiquement, les reproduire. Vous voyez ici les restes de la ville de Ramsès. Mais si on fait des fouilles encore plus bas avec Manfred Wittak, on trouve donc les commencements de cette ville qui était autrefois appelée, comme j'ai déjà indiqué, Avaris. Et à Avaris, on va trouver donc le commencement de ce lieu où Jacob, avec sa famille, est arrivé. Ensuite, dans une couche dessus, on va trouver le palais de Joseph. Et plus tard, on va trouver les maisons des esclaves du peuple d'Israël. Ensuite, les traces de la sortie de l'Égypte. Et voilà, plus d'Israélites en Égypte.